Daniel, t'es dégueulasse, cogno.
Pour la première fois en 10 ans, je me suis vraiment rendu compte que je t'ai coupé la parole.
Non, ta gueule.
Ça m'était jamais arrivé avant.
Connard.
C'est un vieux jingle, mais il marche toujours.
C'est ça.
Là, il marche bien. Ouais, de temps en temps, de le remettre, c'est bien.
Ça m'a perturbé, c'est tellement parce que j'ai entendu Fred Armel s'énerver, ça me rappelle des
avant Noël.
D'avant Noël.
Ouais, mais pourquoi tu as fait ça
surtout avant Noël.
Surtout avant Noël.
Non, mais il y a des périodes.
Avant Noël, Jérôme, c'est lamentable.
Je digérerai jamais.
Vous êtes vraiment des salopards.
Mais non, mais c'est la vérité.
Est-ce que ça marche s'il n'y a pas de fête? Si tu me fais une crasse mi-janvier, ça passe.
Ouais, mi-janvier.
On peut dire me faire ça mi-janvier. C'est dégueulasse.
Non, il faut que le tout, c'est que tu fasses pas. T'évites avant la Chandeleur. Bah, mardi gras. Là, les fêtes qui nous attendent, importantes. Les crêpes.
Ah, les crêpes, c'est
pas. Mardi gras, tu déconnes pas, tu me fais pas de crasse. Après, je crois, on va direct sur Pâques. Hein.
Et à Saint-Valentin.
Ah, Saint-Valentin, ça peut compter aussi. Ouais, ça peut compter. Voilà.
Bon, tu voulais parler du podium de la Ligue 1.
Oui, enfin, la transition difficile après le foot amateur. Ouais, parce que bon, hier soir, on parlait de Saint-Etienne, et évidemment, ça va nous ramener à. Comme tu dis, mes thèmes millénaires.
Ton meilleur rôle.
Ouais, voilà. On a un podium là qui effectivement est surprenant. Alors, évidemment, on n'est pas en train d'envisager que ces deux équipes-là vont se retrouver en Ligue des Champions, en l'occurrence Lille et Saint-Etienne. Évidemment, j'espère que les supporters vont bien comprendre que quand je tiens ce genre de discours, c'est pas que je souhaite absolument que Saint-Etienne ou Lille n'aillent pas en Ligue des Champions. S'ils le méritent sur le terrain, qu'ils y aillent. Et les supporters de ces deux clubs ont tout autant le droit de voir leur équipe en Ligue des Champions et donc débarquer des grosses équipes dans leur stade que Marseille ou Lyon. Il s'agit pas du tout de parler de ça. Mais d'un problème qui est malheureusement trop récurrent dans nos championnats, c'est le phénomène de la surprise. Imaginons que ça tienne. Ça tient non pas parce que ces équipes sont préparées à ça, même si ça veut aussi dire qu'elles ont bien travaillé, qu'elles ont des bons joueurs. Et hier, attention, peut-être que parfois j'ai pu sembler avoir un discours difficile sur méchant sur Saint-Etienne, mais dans le même temps, j'ai bien précisé les forces qu'ils avaient au milieu, derrière, devant, des bons joueurs. Mais on m'empêchera pas de penser que si jamais Lille et Saint-Etienne terminaient sur le podium, c'est parce que Lyon et surtout Marseille, vu la période traversée actuellement, serait en dérapage sur la saison et sur quelque chose pour le coup de totalement imprévu, à la limite d'ailleurs de la cata économique si les deux Olympiques n'y allaient pas. Mais dans le même temps, attention, et c'est là que je veux en venir, c'est que si Lille et Saint-Etienne y vont, ça peut être exactement le même problème à l'envers, paradoxalement, c'est que t'es pas préparé financièrement à ce genre de choses-là, et on sait très bien qu'il y a un tas de clubs dans le passé qui n'ont pas su gérer ces choses-là, et qui se sont plantés. En gros, t'as le plaisir de l'instant, de la qualif, de la participation, et tu le payes après pendant 2 ans au niveau de tes finances, parce que t'as mal géré, parce que t'as vendu les joueurs, parce que t'as pas réussi ton recrutement, parce que t'étais pas préparé, et que t'étais structurellement pas prêt à jouer cette Ligue des Champions, qui est une compétition valorisante où tu prends le chèque, ok, en décembre, voilà, t'es content, t'as fait ta phase de poule, t'as été chapeau 4, donc logiquement, tu t'en sors pas, et puis, t'as pas tellement le niveau en prime quand t'y arrives, il faut dire la vérité. Cette Ligue des Champions, ça, c'est pas de ma faute à moi, mais elle est aujourd'hui, on l'a dit 1 milliard de fois, comme une sorte de ligue fermée. Et en gros, si t'as pas le bon ticket, c'est un peu comme si tu rentres dans une boîte de nuit où t'as pas le droit de rentrer, ou tu rentres par hasard. Après, t'as pas un rond pour te payer un verre, tu passes pour un con et tu finis dehors. Ou alors, tu te payes le verre, mais après, tu t'es ruiné parce qu'il coûtait trop cher pour toi.
Après, les clubs français ils vont pas déclarer forfait.
Non, mais sûr que non. C'est pas ça que je dis. Oui, mais parfois, le choc que ça peut occasionner dans ton club, c'est exactement comme le choc que subiraient les clubs qui doivent y aller et qui y vont pas. Ça peut faire mal. Le mec qui rentre pour faire le beau dans la boîte, alors qu'il a pas les moyens, il se paye 3 verres et la bouteille, et il termine le 15 du mois, il est à la rue.
Est-ce que tu es d'accord avec Daniel?
Écoute, son avis va. Alors, décidément, c'est vrai qu'on enchaîne les choses, mais moi, j'avais parlé la semaine dernière, j'avais fait un avis tranché sur la mentalité du foot français, la mentalité des dirigeants qui doit changer, la mentalité des joueurs aussi dans les discours, parce que il y a discours. En l'occurrence, c'était Ben Arfa que je citais la semaine dernière, même s'il fallait pas s'arrêter que sur lui. Ça va dans cette logique-là, parce que en effet, si et tant mieux pour eux. s'ils l'auront mérité, si Lille et Saint-Etienne restent à cette position-là en fin de saison, et il n'y a pas de raison que ça change pour l'instant, parce que les équipes, les grosses équipes, on va dire, du championnat, Monaco, ils sont largués, donc ils reviendront jamais.
Monaco, ils reviendront pas.
Marseille, à 8 et 9 points, je vois pas, dans l'état où ils sont aujourd'hui, avec tous les manques qu'on dit, comment ils peuvent remonter et finir devant Saint-Etienne et Lille. Il y en a qu'une qui a les moyens de se remettre, c'est Lyon.
Oui, bien sûr.
De se remettre sur le truc. Lyon est armé, en effet, pour rivaliser en Ligue des Champions. La preuve, c'est que aujourd'hui, ils sont en huitième.
Ils sont dans les clous.
Ils sont dans les clous. Alors, c'est sûr que c'est difficile de voir un éventuel vainqueur de la Ligue des Champions, en l'occurrence de l'Olympique Lyonnais, mais au moins, ils ont les moyens pour rivaliser avec les meilleures équipes européennes. Après, je sais pas où ça va s'arrêter. Mais quand tu connais la stratégie de Saint-Etienne, la stratégie de Lille, encore plus Lille, qui, premier à le dire, ils vont bénéficier, et je leur souhaite, d'une très bonne année cette année dans le championnat, peut-être une qualif en Ligue des Champions, pour vendre leurs meilleurs joueurs. Donc si tu vends les meilleurs joueurs à un prix d'or et que tu réinvestis sur des jeunes pour espérer que la Ligue des Champions les mette en lumière comme Monaco l'a fait, c'est problématique pour le foot français.
Les sous que Lille va aller prendre en Ligue des Champions, c'est pour rembourser.
Non mais exactement. Non mais exactement. Mais c'est problématique pour le foot français et on aura on aura les mêmes réflexions l'année prochaine en disant qu'est-ce que vous voulez en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions, encore plus.
Et déjà qu'on aura eu un suivi. C'est-à-dire que les finances des autres, ceux qui ont vocation à y être, elles vont s'arrêter, elles vont prendre un coup. Et voilà. Et malheureusement, c'est pas de notre fait. C'est le football européen qui est devenu comme ça. Le système économique fait que.
Non, mais c'est ça revient à ce qu'on disait. C'est où sont les entraîneurs? Alors le foot a changé. Je suis d'accord. Maintenant, on essaye de se faire de l'argent. Je sais pas comment ils espèrent parce que on en parlait. C'est pas quand t'investis dans un club de foot qu'en général tu deviens très riche. Mais tous les, à part le Paris Saint-Germain, où c'est une stratégie différente. Lyon était différent, mais aujourd'hui, à travers le discours, on le disait, de Jean-Michel Aulas, on a l'impression que ça change un petit peu. Si les discours restent les mêmes, si l'objectif c'est, en effet, de mettre en valeur certains joueurs, les aider à se former au mieux, à se développer, et puis après mieux les vendre pour enrichir le club, ah ben là, ça va être problématique pour la suite. Donc oui, sinon, aujourd'hui, c'est pas une bonne nouvelle. Maintenant, peut-être qu'avec cette saison-là, on imagine, peut-être que les mentalités, je suis peut-être un doux rêveur, mais que la mentalité à Saint-Etienne et à Lille vont changer. Et que, d'un seul coup, ils vont vouloir étoffer leur effectif pour mieux rivaliser. Je pense pas. Non, mais donc je suis un doux rêveur, mais bon.
Dimanche soir, t'as Saint-Etienne-Lyon. Bon, Lyon, ils sont bons dans les gros matchs, normalement. Mais si Saint-Etienne a quand même une belle équipe, si jamais ils les battent, il y a un écart qui va devenir.
Il prendrait une belle option,
ça.
Il y a un tournant du championnat, là.
Il y aura 5 points.
Après, grosso modo, 20 matchs, Marseille n'avait disputé que 29.
19.
Pour 19, pour qu'il revienne, l'OM, c'est chaud. Tu sais quelle est la moyenne de points?
Non, mais.
Quelle est la moyenne de points par match de l'OM cette année? 1,47.
Mais oui. Non mais non mais Daniel.
Et même Lyon n'est pas à 2 points. Ils sont à 1,7 par match.
Ouais. Nicolas, c'est bonsoir.
C'est pas bon. Hein.
Salut Nicolas.
Toi, t'es supporter lyonnais. Qu'est-ce que tu penses de l'avis de Daniel là ce soir?
Je pense que pour ce qui est d'analyser qui sera deuxième, je pense quand même que sur le long terme, Lyon doit être devant. Parce que Lille, quand ils casseront leur dynamique, ils risquent de moins bien s'en remettre. Et Lyon est en train de chercher cette dynamique. Je pense que quand ils auront 2 victoires de suite, j'espère que, enfin, je les attends. Hein. Mais quand Lyon aura gagné 2 matchs de suite, je pense qu'ils auront du mal à arrêter leur série habituelle qu'ils ont souvent en fin de saison. Donc
ouais, celle de la deuxième partie de saison, des 10 victoires de suite, des trucs comme ça.
Voilà, je pense qu'ils vont encore le refaire. Après, la troisième place, j'ai envie de dire, c'est presque plus anecdotique, parce que si elle n'est pas qualificative directement en Ligue des Champions, il faut passer par des barrages.
Ouais, mais le barrage est plus facile maintenant, hein, quand même. Hein.
Ouais, mais si c'est Marseille avec leur inconstance, ou si c'est Saint-Etienne qui débarque d'un seul coup, on n'a pas un effectif fait pour l'Europe du jour au lendemain, quoi. Même si on se qualifie pour le top 3, on n'a pas tout de suite le budget pour faire venir les joueurs qu'il faut, ou pour augmenter les joueurs qu'il faut si jamais on a des joueurs clés. Alors que Lyon, ils ont tout préparé depuis longtemps pour avoir, on va dire, un effectif cohérent et assez large pour qu'on puisse jouer plus en compétition.
Logiquement, c'est ça, oui.
Non, mais Lyon et Paris nous inquiètent pas. Bien sûr que c'est les deux, valeur forte de notre football et que il nous représente en Ligue des Champions, ça me paraît déjà tout à fait logique par rapport au budget, mais surtout on est un peu plus sûr d'avoir des bonnes représentations. Le troisième, en effet, ça reste anecdotique parce que à l'arrivée, regarde Monaco était qualifié d'office cette année, troisième, ça fait deux années de suite qu'en Ligue des Champions c'est la cata, mais la cata, alors que si tu vois ce qui se passe dans le club avec les joueurs qu'il y a, il y a quand même des joueurs de qualité et pourtant ils sont passés à côté par rapport à leur projet qui est vraiment à la baisse aujourd'hui.
Non, mais ceux qui sont dangereux pour la Ligue 1, c'est Monaco, clairement. Parce que eux, ils te qualifient une équipe en Ligue des Champions, mais l'année d'après, c'est plus la même équipe qui est sur le terrain. C'est carrément du vol. Donc eux, pour le coup, ils piquent une place européenne parce que eux, ils ont aucun projet à long terme, mis à part faire de la plus-value et rester, on va dire, dans le top niveau. Mais être deuxième de Ligue 1 et être demi-finaliste de Ligue des Champions pour l'année d'après, ne pas capitaliser là-dessus et finir presque relégable, je trouve ça... C'est incroyable.
Ouais, mais c'est après, je te dis, c'est la stratégie de quasiment tous les clubs aujourd'hui de Ligue 1. Bien, on a mis en avant le projet monégasque, mais bon, on peut parler du projet lillois, du projet stéphanois. Si Saint-Etienne finit en Ligue des Champions, je leur souhaite. Ils profiteront peut-être de ça pour vendre leurs meilleurs éléments. Un Caserie, est-ce qu'il va rester à Saint-Etienne si il continue à faire cette saison-là? Et parce qu'il y aura la Ligue des Champions, donc il restera à Saint-Etienne. Moi, j'en suis pas persuadé.
Ils profiteront. C'est sûr, en effet.
Mais non, mais c'est même sûr.
Pareil pour Pépé à Lille, pareil.
Eh ben, pareil. C'est la même chose.
C'est fait. Donc ça. On sait qu'en juin, il est plus là.
Pépé, il va être plus là. Caserie, moi, je te dis que s'il continue comme ça à Saint-Etienne, au mois de juin, il sera plus là non plus. Et que tu perdras les meilleurs éléments. Et que là, tu prendras un risque dans le recrutement. Non.
Il t'a bien régalé dans Team Nuga, Wobby Caserie, tout à l'heure. Il a dit, ouais, tout ça, c'est grâce à Jérôme. Heureusement qu'il était là.
Excuse-moi, il a dit la vérité. Je l'ai pas forcé à dire ça. Je l'ai conseiller.
Nicolas, merci en tout cas. Rire, non, mais j'ai écouté, moi je me suis dit purée, mais en fait ce que dit Jérôme, c'est vrai.
Ben ouais. Ah, tu sais, quand t'es un joueur international, t'es écouté. Hein.
Allez, on enchaîne, on remercie Nicolas au 32-16. Jérôme a aussi un avis ce soir, il veut parler, devinez de qui ? D'Adrien Rabiot, bien sûr, Jingle Rotten.
C'est la deuxième moins bonne meilleure attaque du championnat.
Ah là là. Bon ouais, non, je voulais parler d'Adrien Rabiot parce que
la deuxième attaque du championnat aujourd'hui.
Hein ? De quoi ?
La deuxième attaque du championnat.
La deuxième attaque du championnat ?
Ouais.
Jérôme. Jérôme,
franchement, ça doit être Lyon.
Bah non, je te laisse chercher. Bon, ton avis concerne Rabiot ?
Non. Attends, parce que
si tu devais dans un écran, c'est plus facile.
Non, mais attends, je regarde. Donc j'ai bien raison, c'est Lyon.
À égalité avec qui ?
Non, 33 et Strasbourg 32 buts marqués.
Voilà. C'est un but de Fekir d'hier.
J'ai encore raison. Non, mais je voulais parler d'Adrien Rabiot parce que là, d'un seul coup, retournement de situation, encore une fois.
Oui, donc alors les infos, c'est que Tourelle pense sérieusement à réintégrer Rabiot s'il n'y a pas de recrutement à ce poste-là. Voilà.
Alors là, franchement, je suis sur le cul. Sur le cul à plein de choses. Alors pas par rapport au fait qu'il réintègre Rabiot, parce que je trouve que par rapport à...
Quand on n'en est pas là, hein.
Non.
C'est Tourelle qui dit...
Non, mais même le fait...
C'est un moyen de pression, quoi.
Fait d'y penser, même le fait d'en parler avec le directeur sportif, avec le président, avec les joueurs, je trouve ça incroyable. Il y a une décision prise il y a quelques semaines d'écarter définitivement, pour l'instant, Adrien Rabiot, par rapport au fait qu'il n'est pas re-signé. On adhère pas. Moi, je trouve ça, et je l'avais dit, incroyable d'écarter un joueur, que tu le fasses plus jouer, que tu décides parce qu'il est pas bon, et il s'est évincé tout seul. Hein. Thomas Tuchel lui a fait confiance au départ. Après, il l'a écarté. Il l'a pas écarté parce que Adrien Rabiot n'avait pas prolongé. Il l'a écarté parce que ses performances étaient pas bonnes et parce qu'il a trouvé un autre équilibre d'équipe et que cette équipe en Ligue des Champions a montré du caractère. Et quand elle a montré du caractère, il y avait pas Adrien Rabiot. Donc il s'est écarté comme ça. Après, il y a eu une décision d'en haut de dire écoute, tu écartes des définitivement Adrien Rabiot. C'est une connerie ou pas, au moins ils essayent de se faire respecter contrairement à ce qui s'est passé tous les épisodes depuis que les Qataris sont là, il y en a eu beaucoup, hein.
Ouais.
Le discours de certains joueurs, Ibrahimovic entre autres, où on n'a rien dit de spécial, hein, juste des fausses excuses. L'épisode Aurier, l'épisode Laurent Blanc quand je signe et je vire mon entraîneur après avoir re-signé et je lui fais un chèque de 22 millions d'euros, ça s'était jamais vu. Donc si tu veux, il y a plein de façons où ils se sont trompés dans le respect de l'institution, dans ce que c'était le Paris Saint-Germain, dans l'histoire du club, expliquer aux nouveaux joueurs et aux joueurs étrangers s'ils le savent pas ce que ce club a fait avant, qui est un club jeune mais au moins qui a gagné des titres avant et qui a eu des formidables époque aussi, tout ça, ça a été raté. Là, ils avaient l'occasion avec Adrien Rabiot, du moins, ils ont décidé de trancher en disant, voilà, il s'est foutu de nous, et ben on l'écarte. Ok, d'accord, mais fais pas machine arrière au bout d'un mois, parce que t'arrives pas à recruter un milieu de terrain, parce que ça me paraît primordial, on le dit, d'avoir un effectif un peu plus étoffé dans le cœur du jeu, mais pas Adrien Rabiot, parce que si jamais Thomas Tuchel, comme il le dit, il réintègre, et c'est validé, il recrute pas, il réintègre Adrien Rabiot, il va te servir à quoi? Tu vas passer pour un con déjà. Alors comme d'habitude, hein, je vais dire les dirigeants et le club.
Je vais
t'expliquer. Bah, Thomas Tuchel,
il va quelque part, si c'est le cas, faire passer les dirigeants pour des cons.
Ouais, mais lui aussi, parce qu'à l'arrivée, déjà, il fait plus partie de ses plans. D'accord. Il y a une équipe qui s'est dégagée en Ligue des Champions. Mmh. Son équipe type aujourd'hui, c'est sans Adrien Rabiot. On est d'accord. Donc, il va le réintégrer. Pourquoi faire? Pour jouer la Coupe de France? Il y a plus la Coupe de la Ligue. Donc non, pour jouer la Coupe de France,
sur le banc,
franchement, je vais te dire. Mais pour être sur le banc, quoi. Mais il faut arrêter. Et le foot professionnel, le haut niveau, c'est pas la cour
mais
des miracles, Gilbert. Mais attends, je vais te dire.
Si Adrien Rabiot, ok, Verratti se blesse.
Non mais laisse-moi finir. Mais tu mets Adrien Rabiot, mais bah tu te fous du monde ou quoi? Mais non, tu mets pas Adrien Rabiot. Adrien Rabiot, son dernier bon match avec le Paris Saint-Germain, c'est quand? Il faut remonter à l'année dernière.
Là, genre, je sais même pas. C'est déjà, très, non, très compliqué
mais,
d'en trouver.
Non mais je vais te dire, on va remonter, on va être gentil avec lui à l'année dernière. Là, il a pas joué depuis un certain temps. Il y a eu cet épisode-là. Il pense qu'il y a une chose, c'est de se barrer. Là, tu vas lui dire, ah ben on recrute pas, donc on va te prendre. Et puis le 12 février, le match le plus important pour le Paris Saint-Germain. Et ben si jamais, comme tu dis, Verratti se blesse ou Marquinhos il est pas bon ou on a besoin d'un milieu, et ben on va sortir du chapeau Adrien Rabiot parce qu'il sera entraîné une quinzaine de jours avec le groupe, alors que là il est mis de côté. Mmh. On sait très bien, alors peut-être pas vous, parce que vous n'avez pas joué au niveau, mais quand tu t'entraînes, tu perds quand même, tu fais que des entraînements, ben tu perds le rythme, tu perds la confiance que t'as, et que quand tu joues un match du niveau de la Ligue des Champions, encore plus sur un match à élimination directe, mais t'es forcément à côté de la plaque. Donc comment il va apporter quelque chose au groupe parisien? C'est une connerie monumentale ce que j'ai entendu.
Daniel, quel est ton point de vue?
Je vais pas ajouter grand chose, je suis 100% d'accord, mais je vais ajouter, je n'y crois pas une seconde.
Ah, j'espère.
Il ne reviendra pas. Je n'y crois pas. Une
mais alors, non, Daniel,
ils ne peuvent pas,
je te pose la question. Pourquoi il tient
pas
ce discours-là, Thomas Tuchel?
C'est pour mettre la pression.
Mais la pression, mais attends, mais franchement, vous foutez de moi ou quoi?
Hey, il a un moyen comme un autre de mettre la pression.
Je crois pas que ce soit pour la pression. Et je crois pas que... Alors, ça dépend de ce que t'appelles pression. C'est pour alerter que, effectivement, ouais, il faut vraiment qu'il se bouge le cul pour le trouver, le 6. Et ils vont le faire. Et moi, je ne crois pas qu'il reviendra parce que je pense que cette fois, le président El Khelaifi ne cédera pas. Et il dira à Tuchel, tu ne le mets pas. Je pense qu'il a fallu beaucoup de temps pour qu'il y ait certaines prises de conscience dans ce club. Il y a eu énormément d'erreurs. D'ailleurs, l'affaire Rabiot vient d'une erreur du club. Je n'y crois pas. Si demain on me dit, Rabiot a réintégré l'effectif du PSG, moi, je vois ça comme une catastrophe et la preuve que, décidément, année après année, ils ne comprennent vraiment rien à la façon de gérer un effectif. Donc, je n'y crois pas.
On va prendre l'avis de Paul au 32-16 qui est là. Salut, Paul.
Ça va, les mecs?
Salut, Paul.
Ça va, et toi?
Salut, Paul.
Ouais, c'est toujours moi qui interviens pour appeler de Rabiot, d'ailleurs. Donc,
t'es le spécialiste de Rabiot.
Bah, c'est toujours moi avec vous.
Ah oui, exact, je me souviens. C'était il y a une bonne semaine, là.
Exactement, je regarde des programmes d'un œil et des matchs de l'autre aussi, tout ça, quoi.
Bon, t'es d'accord avec Jérôme ce soir?
Je suis tout à fait d'accord avec Jérôme. Je pense que là, ça dépasse totalement le cadre du sport, maintenant, cette affaire Rabiot. C'est une affaire d'honneur, entre guillemets, comme je disais à Max au standard. C'est maintenant, il faut se faire respecter en tant que club. Le petit, on a essayé de lui faire comprendre que de toute façon, s'il vous laisse barrer, je crois pas que le club ait jamais dit qu'il voulait absolument pas qu'il barre, il voulait juste prolonger pour faire une plus-value sur le joueur.
Exactement.
Ce que le mec n'a jamais voulu comprendre parce que lui, il a toujours pensé avec sa maman à la grosse prime qu'il avait signée libre dans le prochain club qu'il allait faire. Donc stop aux conneries. On va pas en plus lui faire le plaisir de jouer au football. Je pense que le PSG a les moyens de lui payer son salaire comme il a fait à Ben Arfa. Et heureusement qu'il a les moyens de le faire, parce que si on n'est pas Saint-Etienne, peut-être que Saint-Etienne pourrait pas le faire, mais le PSG peut le faire. N'importe quel grand club le ferait. Donc le PSG doit rester sur la ligne qu'ils ont décidé. Voilà,
mais tu sais, au final, Paul, c'est peut-être, et j'espère l'une des dernières fois qu'on en parle, parce que vraiment, j'y crois pas. Vraiment, je pense que assez rapidement, un joueur va arriver au milieu et Rabiot ne sera plus dans l'effectif du Paris Saint-Germain, ou en tout cas, il sera comme il l'a été sur les derniers matchs, en tribune au moment du match ou carrément à la maison sur son canapé. Alléluia. Donc, je pense qu'on n'est plus, on n'en est plus là. Je ne crois pas à ça. Là.
Alors. Puisqu'on est sur le PSG, je vous pose une autre question qu'on n'a pas abordée trop dans l'after, mais là le PSG donc était au Qatar pendant une semaine. Donc le PSG qui normalement devait jouer son match en retard contre Montpellier là cette semaine, ne le jouera pas là, ça a été reporté à plus tard. Paul, est-ce que tu trouves ça normal? Certains dirigeants de clubs français commencent à gueuler en disant attendez, pourquoi nous on nous dit là on joue et eux ils vont au Qatar tranquille, personne dit rien.
Avec ce que le PSG se prend sur la tronche, entre guillemets, avec les histoires de fair play financier, etc., si en plus la Ligue allait se mettre contre eux et allait leur sucrer ce petit stage au Qatar qui était bien lucratif et qui expliquait une certaine partie des revenus du PSG dans cette année, je pense que la Ligue n'avait pas intérêt non plus à se mettre le PSG à dos dans cette situation. Après que les autres clubs gueulent, je veux dire, dans le match, si le match avec l'équipe contre qui on joue, l'équipe adverse est d'accord, je vois pas pourquoi les autres.
Ouais, c'est ça, exactement. Que il y a un mécontent, c'est Montpellier.
Exactement.
On peut le comprendre. On peut le comprendre que Montpellier, ça les emmerde, ça les embête.
C'est une spirale en ce moment, les Montpellier.
Moi, je comprends que certains en aient parlé. Maintenant que certains trouvent ça scandaleux au nom d'un manque d'équité. Je veux bien qu'on crie et qu'on fasse des bonds de cabri sur une chaise en disant ça, mais c'est quand même être très loin des réalités et ne rien comprendre. Alors, on peut refuser que le foot soit un business, toujours est-il que, soyons réalistes, ça l'est. Aujourd'hui, la Ligue 1 est pas en super forme et elle tient beaucoup à ce que fait le PSG, donc je ne crois pas, c'est de la négo, je ne crois pas que la Ligue avait intérêt, Paul vient de dire en grande partie pourquoi, il n'avait pas intérêt à dire au PSG ou à se mettre en travers de leur volonté, à dire non, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Je crois que personne n'avait intérêt à l'application on va dire d'une sorte d'égalitarisme stupide et à dire non, les autres ils jouent, tu joues aussi. Non, je pense que personne n'avait intérêt à ça, vraiment.
Merci Paul, bonne soirée, à très bientôt pour reparler de Rabiot.
Je vous envoie ma vidéo pour l'académie.
Ah bah écoute, j'espère pour toi que
qu'elle
retiendra notre attention. On écoutera un petit extrait d'ailleurs d'une des vidéos en fin d'after pour vous donner quelques idées, vous qui voulez encore envoyer vos vidéos d'ici dimanche. Juste une info du soir là, le transfert de Salah à Cardiff est presque imminent. Donc ça s'accélère ce soir.
Ça c'est pareil, hein. On parle.
Tu voulais dire un mot de Nantes, Daniel?
Il y a des choses qui doivent se régler parce que quand tu commences à mettre en route la machine et que tu fais les choses à moitié et que ça commence à parler et que tu arrives à des désaccords au sein du club, les derniers matchs de Nantes, ils sont pourris. Hein.
Ouais,
parce que ça là, je veux partir, je veux pas partir, je sais pas. On me pousse dehors, on me pousse pas dehors. Le président dit on va pas laisser passer l'oseille. Vaïd, évidemment, qui gère le sportif, dit merde, vous m'enlevez l'attaquant qui est en pleine bourre cette année. Résultat, Vaïd ne travaille plus normalement et comme il faut. Salah n'a plus vraiment la tête à l'endroit. Et Nantes a fait quoi sur les derniers matchs? Pas bien, ils ont perdu.
Mais ça, on en revient toujours au même, Daniel. C'est outre ce qui se passe à Nantes ou dans les autres clubs, c'est le mercato d'hiver qui est un mercato catastrophique pour la gestion de ces clubs-là. Je te parle pas des grands clubs parce que les grands clubs, eux, ils ont aucun. Normalement, ils ne perdent pas leurs meilleurs éléments.
Jérôme, moi, je me demande si pour Nantes c'est cata. Kita, il a besoin de cet oseille.
Non, mais
Kita, il a besoin de l'oseille.
Mais on parle de l'oseille. Moi, je te fais une différence et on en parle souvent. D'ailleurs, on va d'abord parler du sportif avant de parler de l'oseille.
Évidemment que c'est un gros problème.
Mais comme tu dis, parce que là, Vaïd, il voit un joueur et c'est logique parce que moi, je l'ai vécu. Quand j'étais à Troyes, je suis parti au mercato d'hiver à Monaco J'étais à 3, j'avais joué la Coupe d'Europe, j'étais sur une bonne série, le club est aussi. Alain Perrin, il voulait pas que ça se fasse. Et ben moi je lui ai dit, écoute, tu comment ça, tu veux pas que ça se fasse. Mais moi ils mettent cher. Je vais pas en stage et je ne jouerai pas. J'ai fait ma tête de con comme Salah peut le faire parce que certainement qu'il s'est mis d'accord déjà avec Cardiff et que c'est problématique pour l'entraîneur et sportivement pour l'équipe et ça se ressent en effet
parce que là ils enchaînent. Laisser passer l'opportunité.
Et non mais parfois, ça tu peux le comprendre
aussi. Là le club veut pas laisser passer l'opportunité donc bon bah voilà.
Dans quelques instants les dernières nouvelles et les dernières aventures de Marcelo Bielsa à Leeds. Messieurs dames bougez pas. Julien Laurence va vous raconter tout ça puis j'ai encore plein d'infos mercato à vous donner et puis l'équipe pipe et l'équipe type du Racing Club de Lens. J'en ai reçu plein là. Puis il y en a des belles. Je peux vous dire qu'il y a des gars à Lens qui ont bossé ce soir. On me dit, je n'écouterai plus jamais l'after, me dit Alexis, si Giroud n'est pas l'entraîneur de l'équipe Pipe. Bon, on verra.
Giroud, Jean-Pierre Papin.
Lui, me Giroud, en tout cas. Giroud, je pense que là, quand même.
Bah, on peut faire le tandem, ils ont été tous les deux.
Ah, peut-être bien.